Alors, Pierre-Yves, la deuxième catastrophe aérienne impliquant les nouveaux Boeing 737 MAX 8 de Boeing, évidemment, font beaucoup jaser. Il y a des compagnies qui ont décidé pour l'instant de ne plus faire voler les MAX 8. Et il y a même eu des impacts directs en bourse où le titre de Boeing a plongé de 12 %.
Oui, avec une remontée, évidemment, en fin de journée. Donc, on a fermé ça à moins de 12 %. Mais ce qui est intéressant, Paul, c'est de voir, te souviens-tu de la C-Series quand c'est apparu? La série Max, c'est la réponse à la performance, un peu des améliorations moteurs des autres compagnies. On avait dit, on va garder le Boeing et on va aller chercher un meilleur groupe motorisé, ou on va changer de groupe motorisé, on va mettre Max dessus. Et là, on voit que le marketing d'une marque peut être complètement détruit ou affecté un peu juste parce qu'il y a, ben, juste entre guillemets, parce qu'il y a effectivement un accident. Évidemment, c'est pas nécessairement à cause de Boeing. Il y a une question là-dedans d'entretien, de vérification, d'erreur de pilotage. Il peut y avoir beaucoup de facteurs, mais le titre en bourse a fini avec près de 6 % de pertes aujourd'hui. C'est pas majeur pour le titre de Boeing parce que depuis un an, il avait pris 18 % et 24 % depuis le 1er janvier. Donc, on est encore dans le positif. Mais juste vous donner une idée comment c'est majeur comme compagnie. Boeing, en revenu annuel pour 2018, a généré 101 milliards de revenus et 10,5 milliards de bénéfices nets. C'est énorme. C'est une compagnie dominante et au niveau des 5 dernières années, on voit une belle portée de vente. Donc, ça pourrait affecter peut-être les ventes, pas nécessairement parce que les avionneurs n'ont pas confiance. Mais si on ne réussit pas à trouver le mystère, ça peut influencer des compagnies à dire ben, « mes passagers vont être peut-être rassurés de ne pas être dans cet avion-là. » Donc, on va voir, est-ce qu'il va y avoir des avions cloués au sol, des rappels, on verra la conséquence. Mais au niveau financier, pour l'image, ça fait toujours mal.
Alors, évidemment, on en a parlé beaucoup. La Banque Laurentienne a évité le lock-out. Ben, les employés, finalement, ont décidé de s'entendre avec la direction. Et ça a créé un petit choc en bourse.
Ouais, un dimanche au soir à Montréal. non, mais pour vrai, effectivement, un petit choc, mais pas grand-chose. En fait, un choc positif parce qu'il y a une augmentation de 1%. Pourquoi? On avait anticipé un peu la dévaluation, là, tu sais, parce que le titre avait déjà été à 60 $ dans les derniers mois. Et là, on était descendu jusqu'à 36. Là, on est à 40. C'est intéressant, Paul, de voir à quel point le marché bancaire va évoluer. À quel point c'est un signe, ce qu'on vient de voir, de ce qui s'en vient, de comment notre banque va devenir virtuelle et à quel point notre service bancaire n'est plus une succursale et ne sera plus rentable. Donc, si le client veut avoir de la rentabilité, il doit laisser tomber dans sa tête que la succursale est là. C'est beaucoup de frais fixes quand 90, 95, 99 % de nos transactions ne sont plus monétaires, ne sont plus en argent d'un client à l'autre. Donc, on verra bien. Et même Facebook, Paul, qui s'en va dans le peer-to-peer, c'est-à-dire tentative de faire des transactions monétaires entre des personnes. Alors, la Banque Laurentienne, avec sa petitesse, n'a pas le choix de faire le virage avant les autres. Et c'est ce qu'on verra. La balle est dans le camp du président.
On termine avec une réponse que tu vas donner à une chronique sur les gens qui ont des emplois mixtes.
Oui, tu sais, salariés, travailleur autonome. Il y a un gars qui me dit « Écoute, tu parles jamais de nous autres, ceux qui ont les deux. » Mais je vais t'en parler. Il dit « Au niveau fiscal, qu'est-ce que je dois penser? » Mais la première des choses, c'est que comme si tu es travailleur mixte pour la première fois et que tu as un revenu de travailleur autonome pour la première fois, ta cotisation du régime des rentes du Québec va être doublée parce que tu vas payer la part employeur et employé pour ton revenu de travailleur autonome. L'autre point, pense que faut que le côté salarié te donne peut-être des assurances du côté de ton employeur, mais comme tu travailles peut-être à temps partiel comme salarié, peut-être regarder du côté de ton conjoint ou ta conjointe pour avoir les assurances au niveau des avantages familiaux. Autre point, au niveau de l'impôt, bien important, ton employeur qui a tes salariés, mettons que tu gagnes 30 000 comme salarié, ton employeur va te retenir de l'impôt comme si tu gagnais 30 000 avec les paliers inférieurs. Mais si tu vas acheter un 10 000 ou un 15 000 de travail autonome, puis là, tu te retrouves à 45, 50 ou 55 000, là, ton prochain dollar, au combiné, il va être imposé à 37,12 %. Donc, il faut prévoir d'être autonome au niveau de la fiscalité et de faire des retenues. Et si vous faites faire votre déclaration de revenus par un CPA ou un comptable, il se peut que vous changiez de fourchette de prix. Parce qu'un petit salarié, c'est simple. Mais si tu as un petit 10, 15 000 de travail autonome, là, tu tombes dans Travail professionnel, donc un état des résultats, donc des dépenses, donc complexification du dossier et par conséquent, ton comptable, faut qu'il te fasse changer de modèle de prix, soit à l'heure ou soit à forfait, mais la conséquence, c'est que quand tu vas aller voir ton comptable pour tes impôts, il y a un coût supplémentaire où c'est un travailleur autonome, par rapport à un travailleur autonome ou un salarié individuel.
Merci, bonne soirée, à demain Pierre-Yves.
À demain.